Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Nous sommes à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, pour parler du blé. Le blé, enjeu géopolitique et diplomatie économique, un produit on ne peut plus stratégique, nous le verrons, alors que notre planète mondialisée n'accorde qu'une place marginale aux questions agricoles, alimentaires et rurales. Et pourtant, la fragilité des équilibres est là. On se souvient des révoltes des années 2007-2008. Aujourd'hui, toutes les céréales sont disponibles en abondance sur la planète depuis deux campagnes, ce qui a conduit les prix à baisser significativement, réduisant les factures pour certains, les manques à gagner pour d'autres. Regard sur la place du blé dans les relations internationales et ceux des conflits qui influencent les cours céréaliers. On pense à l'Ukraine. Le blé a-t-il un pouvoir stratégique? Est-il un outil diplomatique? Nous allons voir cela avec nos invités. Racha Ramadan, maître de conférence à la Faculté d'économie et de sciences politiques à l'Université du Caire. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Jacques Hervé, responsable de l'agriculture au Crédit Agricole Banque d'Ukraine et auteur de L'agriculture russe du kolkhoz à l'hypermarché, paru aux éditions L'Harmattan. Bonjour.
Bonjour.
Et Sébastien Abyss, administrateur au secrétariat général du CIAM, le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes, chercheur associé à l'IRIS et auteur de Géopolitique du blé, un produit vital pour la sécurité mondiale, paru aux éditions Iris Armand Collin. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Sébastien Abyss, 3 milliards d'individus consomment du blé chaque jour dans le monde. C'est beaucoup, nous sommes 7 milliards, voire un peu plus. Le blé au cœur de la géopolitique mondiale, on a plutôt tendance et l'habitude de beaucoup parler du pétrole. Pour le blé, c'est un peu une surprise.
C'est peut-être une surprise vue de France. Encore que certains vous diront qu'ils n'ont jamais oublié la centralité stratégique de ce produit dans les affaires politiques françaises, soit dans les temps longs, soit dans l'actualité la plus récente. Quand on se balade un peu sur la planète et dans certaines régions du monde où on consomme beaucoup de blé, notamment de pain, ce produit est absolument central. C'est un produit qui est central dans le commerce international agricole. C'est un produit qui est central pour la sécurité alimentaire puisqu'il fait partie des denrées de base qui permettent quotidiennement aux populations d'avoir une nourriture suffisante et donc de vivre tout simplement. Hein. On est en train de parler d'un produit qui s'est peut-être banalisé pour nous en France dans notre quotidien, mais qui reste important pour nous et qui reste extrêmement précieux, en tout cas pour environ 3 milliards d'individus qui le consomment chaque jour. Il a une dimension géopolitique comparable au pétrole, avec des réalités qui lui sont propres, mais comparable au sens où, comme le pétrole, le blé ne pousse pas dans tous les pays de la planète, que en même temps, il se mondialise dans sa consommation, et donc on consomme du blé et du pain aujourd'hui dans de grandes villes, en Asie ou en Afrique, là où le blé n'était pas forcément un produit traditionnel. Comme on a consommé de plus en plus de pétrole pour se déplacer, le blé est de plus en plus consommé par une population en croissance, dont les habitudes alimentaires changent. Là où il y a une dimension géopolitique assez significative, et je termine là-dessus, c'est qu'à la différence d'autres céréales, le blé est essentiellement consommé à des fins alimentaires humaines. Environ 70% de ce qui est produit sur la planète sert à nourrir les hommes. Quand vous prenez le maïs, une autre céréale emblématique qui a une dimension géopolitique, le maïs, pour moitié, sert à nourrir le bétail. Et donc on a bien un lien particulier du blé, de la géopolitique, avec la question du développement et de la sécurité humaine.
Alors, Racha Ramadan, je me tourne vers vous. Sébastien Abyss vient de le dire, le blé est un bien mondialisé, ce qui n'a pas été toujours le cas. Rattaché à la notion de modernité, cela est très vrai en Égypte.
Et en Égypte, en fait, le pain constitue un composant très important de la nourriture égyptienne depuis longtemps. On le mange dans les trois repas du jour et je ne crois pas que vraiment c'est moderne pour le cas de l'Égypte. C'est vraiment très ancien et ça constitue une partie très importante du diète égyptien tous les jours.
Jean-Jacques Hervé.
Le blé, c'est d'une certaine manière l'image de l'Ukraine, c'est le drapeau de l'Ukraine. C'est le ciel bleu et l'or des blés, le bleu et le jaune du drapeau. Et l'Ukraine a été le grenier à blé de l'Europe occidentale jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Jusqu'en 1925, la France bouclait ses besoins de farine en important des blés d'Odessa.
Nous y reviendrons, bien évidemment, avec ce retour, ce réveil des pays de la mer Noire et dont l'Ukraine. J'ai une question, Sébastien Abyss, elle a trait à la discrétion qui entoure le blé, contrairement au pétrole. Il y a beaucoup de silence autour des achats et des ventes du blé. Quelles sont les raisons de cette discrétion ?
Alors, j'apporterai un bémol à ce commentaire, si vous me le permettez, parce que il n'y a pas forcément plus de discrétion au niveau du blé que le pétrole. Peut-être qu'on parle plus du pétrole dans les relations internationales, dans les affaires stratégiques, dans les médias, dans les affaires politiques, parce que le pétrole, c'est une ressource importante depuis, en gros, un siècle et demi. Et donc, on a l'impression que le pétrole, c'est moderne. On a l'impression qu'avec du pétrole, on va de l'avant, on est mobile. Le blé, c'est extrêmement mobile, ça remonte très loin dans le temps, c'est vieux comme l'agriculture, donc environ moins 10 000 ans. On a parlé de la mer Noire, de l'Ukraine. Mmh. Athènes était une cité sans blé, dont l'essentiel du blé venait du pont Euxin. Et le pont Euxin, c'est la Crimée actuelle. Donc, on a une discrétion peut-être apparente, parce que dans certains pays, dans certains milieux, on a peut-être détourné le regard à la fois sur les questions agricoles en général et la centralité de certaines commodités comme le blé, qui sont venues chez nous depuis 40 ans comme un produit où on en consommait au niveau local parce que c'était de la production française, qu'on en exportait, et donc il est disponible. On a plus de 40 000 boulangeries sur le territoire français. Et on a l'impression que c'est un acquis qui ne s'entretiendrait pas, comme si, une fois qu'on avait acquis une indépendance en blé, elle pouvait se reposer dans le temps. Ce n'est pas vrai. C'est une puissance qui se construit, une influence qui se bâtit dans la durée. Et là où votre question, en revanche, mentionne un aspect important, c'est la discrétion, sans doute, des opérateurs. Alors, il y a une absence de discrétion du blé par rapport à ce qu'il représente dans la religion, dans les cultures, dans les consommations. En revanche, les opérateurs...
Opérateurs, ce sont les marchands.
Les marchands, le secteur privé, les logisticiens, y compris les producteurs. C'est-à-dire qu'on a à la fois des producteurs du blé qui ont peut-être insuffisamment valorisé leur métier, et trop souvent contester des difficultés, sans mettre en avant les contributions positives de leur activité à la fois à l'économie des territoires ou au commerce, à la stabilité géopolitique de la planète. On a des logisticiens pour lesquels, très rarement, on met l'accent, mais en France, on a des sociétés de logistique tout à fait majeures et compétitives hein, dans cette mondialisation agricole. Et puis, on a des grands marchands de grains, qui sont pas nouveaux, qui se sont déployés à partir du 19e siècle pour rapprocher l'offre de la demande, hein, parce que, soyons aussi très clairs, ces grands marchands de grains, ils déplacent la production de céréales, de blé, des territoires où ils poussent, pour les apporter notamment dans les régions où ils poussent, mais où il fait défaut, et il faut des quantités supplémentaires. Et c'est vrai qu'ils ont peut-être le culte de la discrétion, parce que on est aussi sur un produit extrêmement sensible et stratégique. Donc les pouvoirs publics, les acheteurs, y compris aujourd'hui des acheteurs qui seraient privés, ou les exportateurs, n'ont pas forcément envie toujours de communiquer sur ce qu'ils font, puisqu'ils sont en train de parler d'une matière première vivante et vitale. Et donc on n'a pas forcément envie de toujours donner à l'avance les coûts financiers, les coûts politiques qu'on est en train de mener, parce que avec le blé dépend la stabilité des territoires. Et si le blé vient à manquer ou qu'on n'arrive pas à en acheter, on n'a pas forcément envie que toute la population le sache tout de suite.
Reflet donc d'une certaine éventuelle vulnérabilité, en tout cas des rapports de force entre les puissants et les faibles. Jean-Jacques Hervé.
Oui, moi je voulais dire aussi quelque chose à ce sujet. Je crois que ce que dit Sébastien est tout à fait juste. Je pense aussi qu'il y a une grande différence entre les ressources pétrolières et les ressources du blé. Le blé, c'est une production qui est répartie entre une très grande quantité de producteurs. Et moi-même, quand j'ai commencé en Ukraine à travailler dans la filiale du Crédit Agricole, j'ai formé des gens qui ne connaissaient absolument rien à l'agriculture. Et j'aurais posé la question. Connaissez-vous les deux productions de l'agriculture ? Oh oui, alors on me citait tous les fruits, les légumes, les grains, etc. J'ai dit oui, il y en a une autre qui est extrêmement importante. C'est qu'après la récolte, vous avez encore la possibilité de récolter quelque chose sur la même terre. Ce qui n'est pas le cas d'un puits de pétrole. Et donc on a une structure d'appropriation du droit à produire qui, pour le pétrole, le gaz, les grands monopoles naturels des États, et la production agricole n'a rien à voir. La production de blé, c'est une production de masse, un très grand nombre de producteurs mondiaux qui alimentent un très grand nombre de consommateurs. Et depuis, et comme le dit Sébastien, par des systèmes extrêmement complexes et depuis des millénaires. Et donc je crois qu'il y a des différences tout à fait fondamentales qui font qu'en effet, le blé, c'est un acquis. La farine, c'est un acquis. Le pain, c'est un acquis. On finit même par oublier que c'est des fermentations qui permettent de faire le pain, que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain, que, etc. Il y a plein d'interdépendances qui sont tellement vitales qu'on a fini par oublier. On mange du pain comme on respire.
Racha Ramadan, vous voulez rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit sur cette notion de reflet de la vulnérabilité peut-être du blé ?
comme M. Hervé a dit, c'est que le pain, c'est un acquis pour beaucoup de peuples, et donc, surtout dans les pays importateurs comme l'Égypte. C'est vraiment un bien acquis que parfois on oublie qu'il y a toute une chaîne et beaucoup d'étapes avant d'y arriver.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, on parlera bien sûr du cas spécifique de l'Égypte. Sébastien Abyss, par rapport à votre ouvrage, dont je rappelle le titre, Géopolitique du blé, un produit vital pour la sécurité mondiale, j'aimerais revenir sur quelque chose et vous insister notamment, bien évidemment, sur le pouvoir stratégique du blé. Vous revenez sur deux événements de l'histoire récente, finalement. D'une part, la fourniture par les Américains de blé à l'Empire soviétique, donc Washington qui a subvenu aux besoins de Moscou. C'était une façon aussi pour Moscou finalement de mettre un genou à terre. Et puis le deuxième événement, et c'est peut-être vers vous je me tournerai, Racha Ramadan, c'est l'accord de paix égypto-israélien qui a été imposé finalement au Caire par Washington, qui a brandi la menace de la coupure de fourniture de blé. Donc voilà. Et est-ce que dans l'histoire peut-être plus récente, il y a d'autres éclairages qui viennent souligner et marquer l'ampleur de ce pouvoir stratégique du blé, Sébastien?
Oui, alors c'est tout l'intérêt avec ce produit. On a dit qu'il remontait profondément dans le temps, et ce que j'ai souhaité essayer de mettre en exergue sur la géopolitique du blé dans l'histoire, c'est non pas d'expliquer que des grandes ruptures historiques s'expliquent par la seule variable alimentaire ou la seule présence du blé au milieu de négociations ou de rapports de force. C'est simplement essayer de souligner qu'il y a tout au long de l'histoire des événements qui ont beaucoup compté, qui ont entraîné de grandes bifurcations stratégiques, où la place des questions alimentaires, et avec le blé qui est un produit symptomatique de ces sensibilités, il ne faut pas oublier ces variables dans certains événements. Alors on peut remonter très loin, j'ai évoqué Athènes, on peut parler bien sûr de la Révolution française, mais c'est vrai que si on regarde la guerre froide, beaucoup commenté la guerre froide, énormément de travaux sur la rivalité Est-Ouest, et c'est intéressant de regarder que dans la rivalité Est-Ouest, c'est vrai que quand le rapport de force a commencé à évoluer aussi, c'est notamment parce que l'URSS est devenue de plus en plus fragile sur le plan agricole, de plus en plus fragile sur les marchés céréaliers, a même acheté du blé américain avec des contorsions entre les producteurs américains, les pouvoirs publics américains, parce que bien sûr, là, la discrétion devait prévaloir.
Absolue.
Hein, puisque, évidemment, la menace bolchevique faisait qu'on avait un interdit de vente vis-à-vis des Russes. Et donc, nous avons dans la guerre froide des épisodes qui ont marqué à quel point les Américains avaient utilisé l'arme de persuasion massive, c'est-à-dire l'arme alimentaire, pour à la fois fragiliser l'Empire soviétique, mais aussi tisser des alliances sur la planète. Et on sait que dans la cartographie de l'aide alimentaire américaine, dont une très grande partie de cette aide reposait sur du blé américain, et l'Amérique assurait à peu près 40% des exportations mondiales de blé avant la chute du mur de Berlin, donc c'était le grand régulateur des marchés, les Américains ne se sont jamais privés de mettre la question du blé au cœur de leur diplomatie. Je me permets juste de citer un rapport datant de 1958, fait à l'époque par Hubert Humphrey, qui deviendra quand même le vice-président américain sous Lyndon Johnson, et qui dit dès la fin des années 50, « Le pain et non les armes peut très bien décider de l'avenir de l'humanité, et c'est sur ces produits, sur ce secteur agricole, que l'Amérique pourra battre l'Empire soviétique. » Vous avez évoqué l'accord de paix de 79, qui ne peut pas s'expliquer uniquement parce que Kissinger, le secrétaire d'État américain, a mis l'arrêt des aides alimentaires de blé sur la table pour menacer le président égyptien Sadat s'il ne signait pas l'accord de paix avec Israël. Mais oublier cet aspect-là, c'est passer à côté d'une explication qui a fortement contribué à faire plier l'ancien président égyptien dans sa décision, qui a eu des conséquences derrière géopolitiques non négligeables sur à la fois l'Égypte, bien sûr les relations au Moyen-Orient, mais le monde tout entier. Puis vous évoquez des choses plus récentes. Je rappelle volontiers que malgré l'embargo, malgré les supposées froideurs des relations diplomatiques, les Américains ont continué à vendre du blé à l'Iran ces dernières années.
Jean-Jacques Hervé.
Oui, on pourrait d'ailleurs poursuivre la réflexion de Sébastien en remarquant que ce que les Russes importent des États-Unis après l'indépendance de l'URSS, c'est de la vente de volaille. La viande de volaille, c'est des céréales à plumes.
À deux pattes.
À deux pattes. Et on regarde les quelques dizaines de millions de tonnes que les États-Unis livraient, on divise par le coefficient de transformation de l'alimentation et on tombe sur la quantité de viande de volaille importée par les Russes. pleine permanence, en effet, d'une relation fonctionnelle, tout à fait surprenante, hein, entre des ennemis même, qui se faisaient la course à l'armement jusqu'à ce que Reagan menace la guerre des étoiles et conduise à, sans doute à en effet, l'effondrement de l'URSS.
Racha Ramadan, sur l'Égypte aujourd'hui, dont on peut rappeler, et après ça, bien sûr, on évoquera peut-être les grands acteurs hein, en termes de blé dans le monde. En tout cas, l'Égypte, premier importateur de blé, puisqu'on parlait de la Russie, beaucoup de blé consommé en Égypte est importé de Russie. Si je ne me trompe pas, et je parle sous votre contrôle, c'est à peu près un tiers de la totalité du blé importé.
Oui, et en fait, je viens juste sur ce que Sébastien a dit, que le blé, c'est vraiment important. Être plus important que les armes. Par exemple, en 1977, d'après les conseils de FMI, c'était d'éliminer les systèmes de subvention alimentaire dont le pain compose une part très importante. Il y avait beaucoup d'émeutes et ça fait que le gouvernement a décidé d'arrêter cette élimination. En 2008 aussi, avec la crise alimentaire et la hausse des prix du blé, le gouvernement était obligé d'augmenter le budget déterminé pour les subventions. En fait, l'Égypte, c'est le premier importateur dans le monde et importe presque 39% de Russie, 28% des États-Unis et 11% de la France. Et la majorité du pain importé est utilisé dans le système de subvention du pain. Donc le blé importé, c'est pour produire ce pain subventionné qui compose presque 70% de la consommation du pain, surtout des pauvres égyptiens.
Alors, pour ce qui est des grands acteurs, c'est intéressant de voir qui est gros producteur mondial et qui est puissant dans le monde, finalement. Hein. Ça, c'est un peu la tendance qu'on évoque depuis le début de cette émission. Donc, les pays qui exercent une assise sur les affaires céréalières mondiales, eh bien, on les a déjà cités, mais pas tous. Les États-Unis, il va être important de voir comment, finalement, les Américains parviennent, si tant est qu'ils le fassent, à maintenir leur hégémonie. On parlera peut-être d'érosion du pouvoir américain en la matière, le Canada, les pays de la mer Noire et l'Union européenne. Pour les États-Unis, l'érosion de ce pouvoir sur les céréales, sur la production et surtout sur l'exportation, non parce que les Américains sont toujours premiers exportateurs, mais ne sont pas les premiers producteurs, c'est l'Union européenne qui est premier producteur. L'érosion du pouvoir américain, c'est un choix ou un fait de conjoncture, Sébastien Abyss ?
Je pense que ce n'est pas un choix, c'est aussi le résultat de politiques américaines ces dernières années qui ont fait basculer peut-être certaines surfaces agricoles sur des matières premières plus dynamiques, à la fois en termes de prix et en termes de recherche et d'innovation, notamment le maïs et le soja. Néanmoins, les Américains restent un acteur incontournable sur les marchés de blé. C'est vrai que leur poids est moindre aujourd'hui en valeur relative, pas forcément en valeur absolue. Concrètement, les Américains, quand le mur de Berlin tombe, ils assurent 40% des exportations mondiales de blé. Aujourd'hui, on est autour de 20%. Et en fait, depuis 20 ans, cette perte américaine, elle est compensée par le retour sur les marchés, justement, de la Russie, de l'Ukraine, et donc de ce bassin mer Noire qu'on évoquera sans doute. Ce que je me permets de dire volontiers dans le cas des États-Unis, c'est que on reste quand même sur une puissance globale. Quand on parle des États-Unis, c'est l'hyperpuissance américaine des années 90. C'est une puissance aujourd'hui, certes, peut-être moindre, mais qui reste bien sûr la seule grande puissance globale de la planète.
Jean-Jacques
Dans
Hervé.
Cette grande puissance globale de la planète, l'agriculture fait partie de la panoplie des atouts américains. Et les autorités américaines n'ont jamais abandonné le pilier agricole dans la puissance américaine. Et ça, c'est très important à l'heure où peut-être les États européens ont tendance à peut-être moins mettre l'agriculture ces dernières années comme un déterminant de leur puissance et de leur influence dans le monde.
Jean-Jacques Hervé, alors 15 secondes pour terminer cette première partie et je vous promets qu'on ouvre la deuxième partie avec vous.
Sur la mer Noire, ce qui est frappant, c'est de comparer la politique de la Russie à celle de l'Ukraine. La Russie exporte du gaz, du pétrole, l'agriculture, c'est un outil politique. Elle fait ce qu'elle veut. Elle a peur que le prix du pain augmente, elle met un embargo. L'Ukraine a besoin d'exporter son blé et donc ne fait pas la même politique.
Je vous retrouve en début de deuxième partie d'émission géopolitique. Nous retrouvons nos invités, Racha Ramadan, Sébastien Abyss et Jean-Jacques Hervé dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Le blé, enjeu géopolitique et diplomatie économique. Nous retrouvons nos invités. Racha Ramadan, maître de conférence à la faculté d'économie et de sciences politiques à l'université du Caire. Jean-Jacques Hervé, responsable de l'agriculture au Crédit Agricole Banque d'Ukraine, auteur de l'agriculture russe du Kolkhoz à l'hypermarché. Et Sébastien Abyss, administrateur au secrétariat général du SIAM, chercheur associé à l'IRIS et auteur de Géopolitique du blé, un produit vital pour la sécurité mondiale, par aux éditions IRIS Armand Collin. Et l'ouvrage de Jean-Jacques Hervé paru chez L'Armatan. Jean-Jacques Hervé, pour ce qui est des pays qui exercent une assise sur les affaires céréalières mondiales, on a parlé des États-Unis. Avec vous, les pays de la mer Noire, c'est un vrai retour au premier plan des pays de la mer Noire. Comment expliquer ce qu'on peut appeler un réveil ?
Alors je crois qu'on peut expliquer le réveil par ce qui s'est passé avec l'effondrement de l'URSS. L'effondrement de l'URSS a mis la Russie, Fédération de Russie, dans une situation alimentaire épouvantable et intenable. Et Gaïdaï et Yeltsin, qui étaient aux affaires, ont négocié des aides internationales pour pouvoir boucler la balance alimentaire. Donc ils ont demandé à réimporter des céréales d'Europe et des États-Unis, des viandes et des produits laitiers. En contrepartie de quoi, la Russie s'est engagée à privatiser son agriculture. Et puis est arrivée la grande crise de 98. Et puis les autres pays de l'ex-URSS, le Kazakhstan, l'Ukraine, notamment, qui sont les deux autres grandes puissances agricoles, ont fait un peu la même chose, avec des nuances sensibles. L'Ukraine étant capable de se nourrir bien plus que la Russie. L'Ukraine contribuant à 70% de la production de sucre de l'ensemble de l'Empire soviétique. Et donc lorsque la Russie engage cette procédure, elle mise sur le fait que les importations vont toujours être le moteur de l'alimentation. Et puis patatras, crise asiatique, crise des GKO, crise du rouble, dévaluation, il est devenu impossible d'acheter la viande et les fromages d'Europe et des États-Unis. Et donc les gars qui avaient gagné de l'argent en vendant du gaz ou du pétrole, ou gagné de l'argent en faisant l'import, se sont renvoyés vers la production qui marche vite, qui n'exige pas de capitaux. Ils ont fait de la volaille, ils ont repris les anciennes fermes abandonnées, ils se sont fait aider par les grands pourvoyeurs de technologies internationaux, ils ont repris le blé, parce que, une fois de plus, les volailles, c'est du blé de pâte, et ils ont relancé la production. Et donc, il y a eu un redémarrage de la production agricole. Formidable. Et en 2000, 10 ans à peine après l'indépendance des États de l'URSS, eh bien, les pays sont revenus sur le marché international, en fonction des exportateurs. Et depuis, ça ne cesse de croître, parce que la Russie n'a pas vraiment besoin de son agriculture. Elle fait à peu près de quoi lui faut, ce qu'il lui faut pour manger, à peu près, un peu plus de 75 millions de tonnes par an. Elle est contente avec ça. Si elle en fait beaucoup plus, elle va exporter. Mais la Russie n'exporte pas plus avec ses 220 millions d'hectares de terre que l'Ukraine avec 40 millions d'hectares de terre. Et donc l'Ukraine a compris que l'agriculture, et notamment la production céréalière, de maïs et de blé et d'orge, c'était moteur.
A compris ou s'est souvenu, parce que...
A compris, s'est souvenu, oui, s'est souvenu. Ce sont des pays où l'histoire est très complexe à écrire, les déplacements de population. Vous savez, l'Ukraine est profondément marquée par la grande famine organisée par le pouvoir bolchevique des années 30. Et les déplacements de population ont perturbé d'une grande manière l'histoire. Mais il y a effectivement une dignité agricole qui existe en Ukraine et qui existe également dans certaines terres du Kazakhstan. Et sans doute dans le sud de la Russie, dans le sud, dans le Kouban.
Alors justement, et je me permets de revenir en donnant un petit peu de façon hiérarchique la liste des pays exportateurs de blé dans le monde. Les États-Unis en première position, l'Union européenne en deuxième, suit le Canada, l'Australie, la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan. Alors le Kazakhstan, Jean-Jacques Hervé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la stratégie de ce pays que finalement en Europe on ne connaît pas si bien que ça.
D'abord, on ne se rend pas très bien compte de la taille du Kazakhstan. Un immense territoire, plusieurs fois la France, peuplé de plusieurs fois moins que la France, aux richesses naturelles exceptionnelles, du gaz, du pétrole, du charbon, voisin de la Chine, voisin de l'Iran, voisin de la Russie. Et il a l'extrême chance d'avoir deux grandes zones de production agricole. La zone du sud, autour d'Almaty, son ancienne capitale, qui est une zone d'oasis avec des fruits exceptionnels. Et puis le croissant nord céréalier du Kazakhstan, qui est la frontière avec la Russie. Frontière extrêmement perméable, parce que moi-même, j'ai fait énormément de tourins dans la Russie du sud, la Sibérie du sud. Et souvent, le chauffeur dit « Ah merde, on est au Kazakhstan, là, il faut qu'on fasse un peu de demi-tour. »
Vous n'êtes pas un banquier qui passe ses journées dans son bureau.
Ah non, je crois qu'il faut être sur le terrain pour comprendre ce qui se passe. Et ce croissant nord, où le président Nazarbayev a eu l'intelligence de poser sa capitale pour éviter une scission de son pays, est une zone au potentiel formidable. Alors qui nous surprend parce que ce n'est qu'une toute petite partie du territoire avec des exploitations extrêmement grandes. Le patron de l'Union céréalière possède, entre guillemets, parce qu'il n'a pas propriété du foncier, mais il a le droit d'exploitation, à peu près 1 million d'hectares. Mais sur chaque hectare, il récolte entre 1 et 1,5 tonnes par hectare. Et donc ce pays a lui aussi un formidable potentiel de production de céréales de très bonne qualité, très sèches et de très haute teneur en protéines. Et par conséquent, ces céréales kazakhs, plus ces céréales de l'Ukraine, qui sont également à haute teneur en protéines, parfois un peu moins bonnes en humidité, mais ça s'améliore rapidement, qui ont su se mettre à l'abri de mycotoxines et des punaises, qui sont une plaie pour le commerce, ces céréales sont extrêmement appréciées des pays pour qui importer des céréales, c'est le moyen de donner à manger à tout le monde et d'éviter les émeutes de la faim. Donc il y a un retour aussi des acheteurs vers ces zones de production. Ils se disent, tiens, voilà des zones dans lesquelles l'agriculture compte. Il y a peut-être des bases d'un accord de libre-échange véritable, en quelque sorte.
Pour revenir très rapidement, Jean-Jacques Hervé, sur l'Ukraine, vous évoquiez les choix stratégiques faits par Kiev en termes de production de blé. Très rapidement, les fortes tensions avec la Russie ont eu un impact sur la production de blé en Ukraine?
Pour le moment, je ne vois pas d'impact négatif de la tension militaire dans l'est du pays. Et même l'annexion de la Crimée en mars dernier n'a pas vraiment amputé le potentiel de production et elle n'a pas touché le potentiel de chargement, d'exportation. L'outil d'exportation est toujours là avec 40 millions de tonnes de chargement, en gros sur la côte mer Noire, entre le débouché du Dniepr et l'embouchure du Danube. Et donc, jusqu'à ce que éventuellement la Russie pousse plus loin ses volontés hégémoniques, les capacités logistiques d'exportation ne sont pas menacées. Je ne crois pas que la Russie irait beaucoup plus loin que peut-être Mariupol, c'est-à-dire un contrôle de la mer d'Azov et le contrôle des exportations des aciéries d'un oligarque bien connu de l'Ukraine qui est particulièrement dans le collimateur. Donc je pense que pour le moment, on est à l'abri d'une certaine pression sur ses capacités d'exportation. Et le ministre de l'Agriculture d'Ukraine, qui sera parisien en début de semaine prochaine, a un message. Les capacités d'exportation sont intactes et l'exportation est capitale pour un pays qui doit subir aujourd'hui les contre-effets de la crise. Et les contre-effets de la crise, c'est pas l'agriculture. C'est d'abord la dévaluation de la monnaie et c'est l'inflation à l'intérieur du pays. Et donc l'exportation de l'ensemble de la production végétale du pays est considérée comme l'outil majeur du développement économique.
Donc l'Ukraine, 6e exportateur mondial, le Kazakhstan, 7e. Du côté des importateurs, on va revenir vers vous, Rachid Ramadan, sur l'Égypte, qui est donc le premier importateur au monde, suivi du Brésil. Ça, c'est l'une des surprises. Est-ce que vous évoquez, Sébastien Abyss, parmi ces régions du monde qui ont soif de blé, l'Amérique latine a très soif de blé, et puis bien sûr toute la région du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Donc l'Égypte, premier importateur mondial de blé. Qu'en est-il de la stratégie aujourd'hui du Caire, Rachid Ramadan, pour justement amoindrir cette hyperdépendance de l'Égypte et de la région finalement en général par rapport au blé?
En fait, comme je vous ai dit, le blé importé est principalement utilisé pour la production du pain subventionné. Mmh. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand ce système était mis en place, au début, il n'y avait pas de problème parce qu'on était exportateur du blé et le système était bien ciblé. Mais avec le temps, le système a commencé à souffrir de beaucoup de problèmes. Par exemple, une des choses, le fait de l'intervention du gouvernement dans toutes les étapes de la chaîne de production du pain, depuis du blé jusqu'au pain, fait qu'il y a l'existence du marché noir. Mmh. Un boulanger n'a pas intérêt quand il reçoit la farine subventionnée. Il a plus intérêt à aller le vendre à des usines de macaronis ou des pâtisseries pour gagner la différence de prix. Il y avait aussi donc pour les pauvres vraiment qui profitent de ce pain, n'avaient pas assez de pain, ce qui cause des problèmes et de sécurité alimentaire. Aussi, comme le pain c'est très, le prix est très très bas, c'est presque un cent, les consommateurs le considèrent comme acquis, ils achètent plus que ce qu'ils consomment, ils l'utilisent pour l'alimentation de leur bétail ou les jettent ou les mal utilisent. Ce que le gouvernement a essayé de faire, ça fait un moment, c'est d'abord libéraliser la chaîne de production du pain. Donc maintenant, le gouvernement intervient seulement au dernier stade, acheter le pain, les galettes de pain des boulangeries à prix du marché, ensuite le vendre à prix subventionné aux consommateurs, ce qui réduit le problème du marché noir et du gaspillage. Mmh. aussi pour le problème de gaspillage, le problème de l'existence des silos développés ou des silos ouverts. Le gouvernement actuel investit beaucoup pour essayer d'améliorer tout ce qui est logistique, l'existence d'infrastructures nécessaires pour le déplacement de blé et les silos couverts. Et finalement, le grand réforme qui s'est passé depuis, ça fait un an, d'abord le pain était disponible pour tout le monde. Et maintenant, non, le pain est disponible à travers une carte de rationnement. Chaque personne par ménage a droit à 5 galettes de pain, donc 150 par mois. Et à la fin du mois, s'ils consomment moins que ce quota, ils ont des points qui peuvent les changer contre d'autres biens
subventionnés. C'est une sorte de panier, finalement, une carte panier.
Oui, donc ça améliore la sécurité alimentaire parce qu'il y a plusieurs produits maintenant dans ce panier, incluant les viandes, volailles, riz, il y a beaucoup de produits. Et ça amène aussi à réduire un peu la consommation et à épargner tout ce gaspillage. Et du point de vue production, le gouvernement annonce le prix avant la saison de production du blé pour motiver les agriculteurs à cultiver plus de blé et aussi à le vendre, à ne pas seulement le produire et le consommer pour autoconsommation, non, pour essayer vraiment de le vendre, d'investir dans des graines de blé plus améliorées pour faire face aux problèmes de climat et changement climatique. Donc il y a une réforme importante qui s'applique.
Bastien Abyss, je sais que vous avez envie de parler de la France, mais c'est vrai que par rapport à ces pays qui ont soif de blé, constitue beaucoup aussi sur la rive sud de la Méditerranée, la France a un rôle à jouer.
Oui, la France a un rôle à jouer. On n'a pas évoqué la Chine jusqu'à présent, mais je me permets quand même de rappeler volontiers que la Chine, aujourd'hui, c'est après l'Union européenne, si on considère l'Union européenne comme premier producteur mondial de blé, la Chine, c'est le premier producteur mondial de blé. C'est 115 à 125 millions de tonnes de blé chaque année. Et pour l'instant, la Chine souhaite, en riz et en blé, être autosuffisante. C'est pas dit que ça dure. C'est pas dit que dans 10-15 ans, la Chine, en blé, ne va pas faire la même histoire qu'elle a faite avec le soja et le maïs au cours des 10-15 dernières années.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire devenir un grand acheteur structurel sur les marchés. Et avec le soja, par exemple, aujourd'hui, la Chine achète 2/3 des importations mondiales de soja.
Quelle explication ?
L'explication, elle est à la fois un besoin démographique qu'on peut retrouver dans le cas égyptien. On ne peut pas comprendre que l'Égypte, qui exportait du blé au milieu du XXe siècle, soit devenue aujourd'hui le premier acheteur mondial de blé, si on ne rappelle pas la formidable poussée démographique. Je dis formidable au sens premier du terme, c'est-à-dire une explosion dans un temps réduit de la taille de la population, qui est propre au monde arabe, qui est propre aux dynamiques démographiques africaines, mais on reste dans le cas de la Chine sur une grande masse démographique à nourrir. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a des inquiétudes qui s'accroissent autour de la capacité des autorités chinoises à maintenir une autosuffisance en blé dans le siècle qui s'ouvre. Bien sûr, la France en Méditerranée a un rôle particulier. D'abord, la France, on l'a dit, c'est un pays qui, aujourd'hui, a une taille supérieure sur une carte du monde si on met l'accent sur le blé. Troisième exportateur mondial de blé, cinquième producteur mondial. Nous sommes un des pays qui a l'un des meilleurs rendements en blé de la planète sur un pays finalement très petit. Sur nos 550 000 km² hexagonaux, 10% sont couverts de blé. C'est colossal. Et une grande partie de ce blé qui est exporté, parce que d'abord il sert à nourrir les Français, il contribue à la sécurité alimentaire des Européens, et il contribue aux équilibres alimentaires, notamment du voisinage méditerranéen, puisqu'on sait qu'une grande partie du blé que la France exporte arrive sur les débouchés nord-africains de l'Égypte au Maroc. L'Algérie, grand acheteur de blé français, et nous avons, et c'est pour ça que l'histoire est importante, à rappeler cette responsabilité aujourd'hui de la France à participer aux équilibres alimentaires de ces pays, parce qu'elle a les moyens de produire et de donner sur les marchés internationaux des quantités de blé, et on parle d'un produit vital, qui est donc déterminant pour la stabilité et le développement des sociétés sud-méditerranéennes, on doit rappeler que la France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, importait du blé de ses colonies nord-africaines, qui, sans elle, aurait plongé la France dans une insécurité céréalière et alimentaire bien plus forte qu'elle ne l'était, puisque on a quand même attendu février 49 pour lever le rationnement du pain après la Seconde Guerre mondiale, et il a fallu attendre la décennie 70 pour que la France soit indépendante en blé. Je me permets de dire que, puisque nous sommes à l'IRIS, il y a un mois, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est venu faire une conférence à l'IRIS devant les étudiants. Il a insisté sur le fait que l'indépendance de la France constituait la clé de son influence à l'international. Dans quel secteur pouvons-nous dire aujourd'hui, objectivement, que tous les ans, nous sommes au rendez-vous sur une indépendance, en blé c'est le cas, et une capacité d'influence, en blé c'est le cas. Pour qui ? Notamment pour les pays méditerranéens, pour lesquels la notion de puissance repère utilisée aujourd'hui par le président de la République pour qualifier la place de la France dans le monde, puissance repère, en blé oui, et pour les pays méditerranéens d'abord.
Alors, plusieurs questions pour terminer. Est-ce que l'épisode des crises 2007-2008 est une histoire ancienne ? Jean-Jacques Hervé, et finalement, la demande dans le monde en blé, est-ce qu'elle est en augmentation ? Est-ce que la production suit ? Vers où va-t-on ?
Moi, je pense que la demande en blé va accroître, parce que, comme disait un grand économiste français, la seule des lois économiques qui, sans doute, n'est pas tout à fait fausse, c'est la démographie. Et donc, si on regarde la démographie, c'est 9 milliards d'hommes à nourrir d'ici 2050. Donc, je pense que l'obligation est faite à tous ceux qui ont des potentiels de production pour produire. On est dans un système où il n'y a pas de régulation mondiale des marchés. Donc on est dans une phase où on a plutôt des prix extrêmement variables, plutôt baissiers en ce moment, qui semblent aller dans le sens contraire de ce qu'on attendrait d'une demande mondiale croissante. Moi, je fais plutôt le pari que les bassins dans lesquels il y a des possibilités d'accroissement des productions ne sont pas si nombreux que ça. C'est-à-dire des zones où on a des sols fertiles, où on a des hommes qui sont formés, où on a des entreprises qui ont envie de faire, qui on a des États qui supportent. Donc je vois effectivement l'Amérique du Nord, je vois bien cela, je vois déjà avec plus de difficulté le Brésil. Vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil avec les ventes de soja à la Chine. Les 200 km de bouchons entre le Mato Grosso et les ports d'exportation ont conduit les Chinois à renoncer à leurs achats de soja en Chine et à préférer les achats aux États-Unis.
C'est-à-dire que les infrastructures brésiliennes
Infrastructures disponibles, l'Europe et la France en particulier ont des avantages incontestables, sont capitaux pour développer. Et je crois que l'Égypte aujourd'hui a compris que sa clé, à la fois comme territoire et comme porte à d'autres territoires, porte du Soudan, porte d'autres pays, passait par une amélioration de logistique pour stabiliser des échanges, créer des conditions dans lesquelles le développement de la culture et le développement des affaires peuvent se faire de concert.
Donc la logistique, quelque chose d'essentiel. Alors on parle aussi beaucoup du changement climatique et de l'insécurité alimentaire mondiale. Sébastien Abyss, vous voulez dire quelques mots ?
Simplement pour dire qu'il faut bien prendre conscience qu'en blé, aujourd'hui, le panorama mondial prospectif sur simplement le siècle à venir, c'est de moins en moins d'États capables de produire pour nourrir leur population et d'exporter une partie de cette production à l'international. C'est très peu d'États qui sont dans cette position, moins de 20 aujourd'hui sur les 200 États de la planète. En revanche, de plus en plus d'États, quand bien même ils augmentent leur production nationale, ont besoin d'accroître leurs importations parce que leurs besoins alimentaires s'amplifient. Et ça me permet d'insister sur un point. On est dans une situation où, en fait, en gros, les territoires où la population augmente sont les territoires les plus frappés par les instabilités climatiques et les changements climatiques, par les guerres ou les troubles sociopolitiques, et donc par des insécurités agricoles, humaines et alimentaires qui contribuent à agiter encore plus géopolitiquement ces territoires. Dans ce contexte, Jean-Jacques Hervé l'a dit, les pays qui produisent et où on peut augmenter encore les productions ont une responsabilité par rapport à ces enjeux mondiaux. On ne peut pas, avec le blé, avoir une agriculture de jardin. On ne peut pas simplement raisonner production locale, consommation locale. Pas avec un produit aussi vital pour la sécurité mondiale.
Donc responsabilité, c'est presque ce que je vais garder pour terminer cette émission. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Racha Ramadan, maître de conférence à la Faculté d'économie et de sciences politiques à l'Université du Caire. Jean-Jacques Hervé, responsable de l'agriculture au Crédit Agricole Banque d'Ukraine et auteur de l'agriculture russe du kolkhoz à l'hypermarché, paru chez l'Harmattan. Et Sébastien Abyss, administrateur au secrétariat général du CIAM, le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes, chercheur associé à l'IRIS et auteur de Géopolitique du blé, un produit vital pour la sécurité mondiale, paru aux éditions Iris Armand Collin. Je signale également l'ouvrage de référence, l'encyclopédie des matières premières, le rapport Cyclope que dirige Philippe Chalmin, disponible sur internet www.cercle-cyclope.com. Comme vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand, Nathalie Laporte et Bertrand Éclair. À très bientôt.